BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Raphaël Couder, Good Evening Business.
Bonsoir à tous, bientôt 18h sur BFM Business. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de Good Evening Business. On est ensemble et en direct jusqu'à 19h. Et à la une ce soir, les JO se terminent ce week-end. C'est passé très vite, et oui, mais c'est déjà l'heure des premiers bilans. Et c'est une réussite d'abord sur le plan commercial. Les ventes de billets ont battu des records. C'est aussi une réussite sur le plan de l'organisation. Les transports ont été au rendez-vous. Décryptage tout de suite dans le journal. Et puis une embellie surprise au cœur de l'été. Sur le front de l'emploi, le taux de chômage est reparti à la baisse au deuxième trimestre. C'est plutôt inattendu. Les experts pronostiquaient plutôt une remontée ou à minima une stagnation du nombre de chômeurs. On en parlera juste après le journal avec un spécialiste de ces questions. Bertrand Martineau sera notre invité. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 19h et on commence tout de suite avec le journal.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence donc avec les Jeux Olympiques qui se terminent ce week-end, l'heure des premiers bilans. Ça s'est très bien passé sur le plan sportif, plus de 50 médailles et on espère encore en glaner quelques-unes. C'est aussi une réussite sur le plan de l'organisation et notamment dans les transports à Paris. Peu d'attentes sur les quais, de la place à l'intérieur des rames. Aucun incident, ou presque, ces deux dernières semaines depuis le début de la compétition. La RATP, la SNCF et aussi le groupe ADP, Aéroports de Paris, ont été au rendez-vous, Léa Arrojo.
Oui, exactement. Comme prévu, l'effet des Jeux est neutre sur le trafic des aéroports parisiens selon ADP. Tous les jours, ce sont 240 000 passagers qui voyagent à Charles de Gaulle et jusqu'à 115 000 à Orly. Mais attention, la journée de lundi s'annonce historique selon le groupe ADP. En plus des centaines de milliers de passagers habituels, il faudra ajouter 64 000 accrédités, dont 5 000 athlètes qui quitteront la capitale. Les employés de l'aéroport devront aussi gérer 17 000 bagages hors format. C'est-à-dire les perches, les javelots ou encore les fleurets. Un enjeu logistique et sécuritaire colossal auquel le groupe ADP s'est préparé déjà depuis plusieurs mois. Les accrédités pourront s'enregistrer directement depuis le village olympique et les délégations sportives pourront confier à l'avance tous leurs bagages. Ces valises seront ensuite envoyées à Charles de Gaulle dans une usine à bagages créée spécialement pour l'événement. Autre attention réservée aux athlètes et délégations, une salle de 12 000 mètres carrés est à disposition pour les accueillir avant leur embarquement.
Léa, les transports en commun, eux aussi, ont fait face à une forte fréquentation.
Oui, exactement. Au total, sur l'ensemble des réseaux RATP et SNCF, 4 millions de personnes voyagent chaque jour pour les Jeux Olympiques, soit 500 000 de plus qu'un été normal, ce qui représente un peu plus de 7 millions de validations de titres de transport par jour. C'est plus qu'un été habituel, mais c'est moins qu'un jour classique en hiver où l'on atteint les 9,5 millions de titres sur une journée. Alors, l'avantage de cette période, c'est la fluidité du trafic dans les transports en commun, avec plus de circulation. Et pour cela, 250 conducteurs ont été recrutés chez la RATP. Même bilan pour la SNCF, avec 13 000 agents mobilisés. Donc maintenant, il faut penser à l'après-JO. Il y aura moins de personnel présent physiquement sur les rames, selon la région Île-de-France. En revanche, certaines améliorations vont perdurer après l'événement. Par exemple, l'amélioration de la propreté, la gestion des bagages abandonnés, ou encore l'installation de points d'eau dans différentes gares.
Merci Léa Arrojo. Et avant de penser à l'après-JO, tous les regards vont maintenant se tourner vers la cérémonie de clôture. Elle est prévue dimanche soir au Stade de France. À quoi faut-il s'attendre après la performance spectaculaire sur la scène de la cérémonie d'ouverture? Il faudra évidemment assurer le show final tout en transmettant le flambeau à la ville de Los Angeles qui organisera les prochains Jeux en 2028. Timothée Marouzet.
La cérémonie reste encore très mystérieuse, avec comme unique indice une bande-annonce qui ressemble à un film de science-fiction. Un show hors norme est promis pendant près de 2 heures et déjà des noms de stars américaines circulent, Beyoncé, Ryan Gosling ou encore Tom Cruise sur le toit du Stade de France. Aux commandes, Thomas Joly à la direction artistique bien sûr, mais aussi Thierry Reboul, le directeur exécutif de la cérémonie, compte repousser les limites techniques du Stade de France.
C'est un spectacle exigeant, notamment techniquement. Il y a un certain nombre de choses qui ne se sont pas faites encore au Stade de France. Ça implique une très grande complexité pour nous. Et puis c'est toujours un exploit, une cérémonie de clôture, puisque quand on l'a fait dans un stade, comme c'est traditionnellement le cas, et comme pour une fois on ne dérangera pas à la tradition, mais on récupère le stade dans la nuit de samedi à dimanche, on a 10h, 12h. Pour mettre en place un spectacle complet qui normalement mettrait 8 jours à se monter. Donc
le show baptisé Record proposera un monde dystopique dans lequel les jeux ont disparu. Au milieu du spectacle, les organisateurs français offrent, comme c'est la tradition, 10 minutes de show à l'équipe suivante. Dimanche, ce sera celle de Los Angeles pour promouvoir l'édition 2028. Pour y assister, le prix des billets varie entre 250 et 1600 euros pour les meilleures places.
Et ces Jeux Olympiques ont été également une réussite sur le plan commercial. 9 millions et demi de billets ont été vendus pour les épreuves. Ça représente un taux de remplissage d'environ 95%. Cap maintenant sur les Paralympiques qui commencent le 28 août. Il reste des places, mais peut-être pas pour longtemps, nous disait ce matin Damien Rageau, le directeur des opérations commerciales pour Paris 2024. Il était l'invité de Good Morning Business. Écoutez.
Aujourd'hui, on est déjà à plus d'un million deux de billets vendus. On est en gros sur une jauge globale qui tourne autour de 2,5 millions. Donc il reste un gros million à commercialiser. Sachez qu'on est sur des pics de vente en ce moment, par jour, qui peuvent aller jusqu'à 20 000 billets par jour. Donc ça se développe. Les gens, maintenant, ça va devenir, sur certaines sessions, le billet va devenir un nouveau produit rare. Ce qui nous fait plaisir, parce que ça veut dire que les Jeux paralympiques vont se mettre au niveau des ventes des Jeux olympiques. Il reste des billets, tickets.paris2024.org. S'il est pour les chanceux, pour les gens qui sont partis en vacances, il faut venir parce que franchement, vous allez avoir dans les mêmes sites des Jeux Olympiques, vous allez avoir d'autres athlètes pour les Jeux Paralympiques.
Dans l'actualité également ce vendredi, cette embellie surprise sur le front de l'emploi. La tendance s'est inversée au deuxième trimestre et le taux de chômage est reparti à la baisse pour atteindre 7,3%. Une amélioration qui pourrait toutefois être de courte durée. Caroline Morisseau.
Ces chiffres déjouent tous les pronostics. Alors que les experts tablent sur une hausse du chômage ou au mieux une stagnation, il vient au contraire de repartir à la baisse avec un recul de 0,2 points par rapport au premier trimestre. Parmi les points positifs, les jeunes ne sont pas en reste. Le taux de chômage des 15-24 ans est lui aussi en baisse de 0,4 points sur le trimestre. Peut-être lié à un effet JO. Autre élément important, le taux d'emploi à tout âge confondu continue de progresser pour atteindre 69% du jamais vu. Avec une hausse particulièrement marquée pour les plus âgés, de 50 à 64 ans, sans doute liée à la montée en charge de la réforme des retraites. Malgré cette bonne surprise, l'INSEE reste toutefois prudent. Si l'on en croit les derniers indicateurs, la fin de l'année s'annonce plus compliquée. Les chiffres de création d'emplois publiés en début de semaine témoignent au contraire d'un ralentissement sur le marché du travail. Enfin, le moral des chefs d'entreprise est en berne et pourrait peser sur les embauches.
Mauvaise année en vue pour les viticulteurs. La production de vin devrait diminuer fortement cette année. Selon les prévisions du ministère de l'Agriculture, la production totale de vin ne devrait pas dépasser les 43 millions d'hectolitres cette année, bien loin des 48 millions produits en 2023. Conséquence des mauvaises conditions météo, le temps très humide ayant favorisé le développement de maladies dans les vignes. Certaines régions ont par ailleurs été touchées par la grêle et par des gelées. Aux États-Unis, la campagne présidentielle bat son plein. Kamala Harris va faire son premier déplacement de campagne commun avec Joe Biden la semaine prochaine. Et on apprend par ailleurs que la candidate démocrate s'est entendue avec Donald Trump sur le principe d'un débat télévisé, débat qui aura lieu le 10 septembre prochain sur la chaîne ABC. Et le ton est déjà donné. Valentin Demet.
Entre Kamala Harris et Donald Trump, le match de boxe a commencé. L'un comme l'autre tente d'infliger des uppercuts à son adversaire. Hier, c'est Donald Trump qui s'en est chargé à l'occasion d'une conférence de presse donnée depuis sa résidence privée de Mar-a-Lago, en Floride.
Elle ne sait pas comment faire une conférence de presse. Elle n'est pas assez intelligente pour faire une conférence de presse. Je suis désolé, nous avons besoin de personnes intelligentes pour diriger ce pays.
Cela faisait plusieurs jours que Donald Trump n'avait pas pris la parole. Devant 4 drapeaux américains, il a prédit le pire pour les États-Unis si Kamala Harris devenait présidente.
Notre pays n'a jamais été en danger auparavant, à la fois économiquement et de l'extérieur. Nous risquons fort de nous retrouver dans une troisième guerre mondiale. Cela pourrait arriver.
Pour le moment, le match a lieu à distance. Les deux candidats à la présidence des États-Unis se retrouveront face à face le 10 septembre prochain à l'occasion d'un premier débat télévisé organisé sur la chaîne ABC. Une date qu'attend avec impatience Kamala Harris.
Je suis heureuse qu'il ait enfin accepté ce débat. Je l'attends avec impatience et j'espère que Trump viendra.
Quelques heures plus tôt, l'actuelle vice-présidente des États-Unis était en meeting dans le Michigan, meeting donné devant des ouvriers syndiqués. Tim Walz, son colistier, a aussi attaqué Donald Trump.
Nous savons que ce sont les syndicats qui ont bâti la classe moyenne. Vous savez qui n'y croit pas ? Donald Trump. Il voit le monde complètement différemment. Ce type ne connaît rien à l'unité ou au service. Il est trop occupé à servir ses propres intérêts.
Kamala Harris a, quant à elle, voulu fédérer.
Nous voulons simplement l'équité entre les citoyens. Nous voulons de la dignité pour tous. Nous voulons réaffirmer le droit de tous à la liberté de faire des choix. En particulier ceux qui concernent leur cœur et leur foyer. Et ne pas laisser leur gouvernement leur dire quoi faire. Notre campagne consiste à dire que nous faisons confiance aux gens. Nous voyons les gens. Nous connaissons les gens.
Avant le débat du 10 septembre, Kamala Harris fera campagne aux côtés de Joe Biden le 15 août prochain.
Et retour en France avec cette information qui nous parvient il y a quelques minutes. La Banque de France indique ce vendredi anticiper une hausse significative du PIB français au troisième trimestre grâce à l'effet des Jeux Olympiques. Elle anticipe désormais jusqu'à près de 0,5% de croissance au troisième trimestre. L'immobilier, à présent, avec cette tendance qui se poursuit inexorablement, les marges de négociation n'ont jamais été aussi élevées pour l'achat de passoires thermiques. C'est ce que montre une étude que vous révèle BFM Business. Selon le spécialiste de la data Price Hubble, on peut en moyenne désormais faire baisser le prix d'un logement noté G de plus de 8%. Marie-Cœur de Roy.
Ces dernières années marquent un tournant décisif, nous dit Price Hubble, celui de la création d'une véritable valeur verte. En témoignent les évolutions des marges de négociation en fonction des notes de DPE. Avant 2021, les logements plutôt bien classés affichaient même des taux de négociation nettement supérieurs aux passoires. À une époque, les biens notés D voyaient carrément leur prix baisser en moyenne de plus de 9% contre 7% pour les G. Depuis, la pression des obligations de rénovation et la flambée des coûts de l'énergie ont radicalement changé la donne. Désormais, ce sont bien les logements les moins performants qui se négocient le plus, avec une baisse de prix moyenne de 8,5% pour les maisons et appartements notés G. A l'inverse, les biens de qualité se négocient de moins en moins, avec un taux de marge de négo moyenne passant de près de 7% en 2019 pour les maisons classées B à environ 5,5% au dernier pointage. Preuve, s'il en fallait encore, que la décote des passoires s'accompagne aussi d'une surcote pour les logements performants.
Marie Cœur de Roy. Dans l'actualité des entreprises, Eutelsat termine son année décalée dans le rouge. L'opérateur européen de satellites intègre des charges d'exploitation liées à l'acquisition du britannique OneWeb et affiche une perte nette de 310 millions d'euros. Le groupe reconnaît que le déploiement des services OneWeb a été plus complexe que prévu, mais il indique que les performances devraient croître de façon continue cette année. Coup dur pour la Compagnie des Alpes qui va perdre l'exploitation du domaine de Tignes. À compter de 2026, le conseil municipal de la ville va reprendre la gestion des pistes via une société publique locale. La Compagnie des Alpes, leader mondial de l'exploitation des domaines skiables, gère Tignes depuis 1989. Elle recevra une indemnisation de 103 millions d'euros. Toujours dans le secteur du tourisme, début de saison un peu difficile pour les campings. Au mois de juillet, le nombre de nuitées a reculé de 9,2% par rapport à l'an dernier, à cause notamment des mauvaises conditions météo et du contexte politique également. Écoutez Nicolas Daillot, le président de la Fédération nationale des hôtels de plein air.
La saison des réservations au premier trimestre avait bien commencé, mais tout a changé à partir du mois d'avril et la météo, comme vous le disiez, qui a été quand même très maussade tout au cours du printemps, ce qui fait que le flux journalier de réservations a été inférieur à l'année dernière. On pensait se refaire avec la dernière minute au mois de juin et au début du mois de juillet, mais la dissolution a eu un impact fort sur, là encore, le rythme des réservations. Et puis évidemment, le premier et surtout le deuxième tour des élections législatives a tué la première semaine de juillet, ce qui fait qu'au cours de la deuxième quinzaine de juillet, ce qui est très rare, puisque ça fait plusieurs années que ça n'est pas arrivé, de nombreux campings des deux tiers nord avaient un certain nombre de mobil-homes, de chalets, d'emplacements de camping, de vides. Et finalement, la très haute saison va commencer le 3 août, ce qui est quand même très tardif pour une haute saison qui ne dure que deux mois.
Voilà, 18h13 sur BFM Business. On va faire un point tout de suite sur les marchés. Et on vous retrouve, Étienne Braque, pour cette séance du jour, le CAC 40 qui finit en petite hausse.
En effet, plus 0,3% ce soir à la clôture, le CAC 40 qui se rapproche gentiment des 7300 points, 7269 points, avec mine de rien un indice qui sur l'ensemble de la semaine est stable, ce qui est quand même une belle prouesse, hein, puisque souvenez-vous, en début de semaine, il y avait de beaux mouvements de stress, hein, par rapport notamment à la bourse japonaise qui avait perdu plus de 10% lundi, qui s'est reprise ensuite, beaucoup de volatilité aux États-Unis, que ce soit sur les petites et puis surtout sur les grosses capitalisations. Là, ça tente de s'apaiser. Attention néanmoins, hein, tous les acteurs de marché continuent de dire qu'il y a de faibles volumes d'échanges et que tout est possible dans les prochaines séances. D'autant plus que la semaine prochaine, vous aurez des chiffres d'inflation aux États-Unis. Ça sera mercredi, juste avant des prix à la production mardi, là aussi aux États-Unis. Donc ça sera très important, sachant que le marché, depuis quelques jours, est inquiet du ralentissement économique aux États-Unis. Dans ce contexte, vous avez trois indices américains qui font du surplace. Le S&P est parfaitement stable. Dow Jones recule de 0,15% quand le Nasdaq de son côté cède 0,3%. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui, une très grosse capitalisation boursière, c'est TSMC hein, dans le top 10 mondial, qui a publié ses résultats avec des croissances qui sont juste exceptionnelles. Hein, plus de 30% de croissance au deuxième trimestre, une croissance qui sera toujours présente d'après le groupe au troisième trimestre avec l'intelligence artificielle. Ça porte légèrement cette valeur de 0,5%. Et donc Wall Street qui est en petite baisse, que ce soit aujourd'hui et sur l'ensemble de la semaine, quand le CAC 40 sauve les meubles, stable sur la semaine et gagne 0,3% ce soir à la clôture à 7269 points.
Merci beaucoup Étienne Braque, restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, on va revenir sur cette embellie sur le marché de l'emploi, le taux de chômage qui a légèrement baissé au deuxième trimestre. On va en parler avec Bertrand Martineau, expert associé à l'Institut Montaigne. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Raphaël Couder, Good Evening Business.
C'est une bonne surprise sur le front de l'emploi au cœur de l'été. Le taux de chômage a légèrement baissé au deuxième trimestre en France. 7,3% de chômeurs selon l'INSEE. C'est 0,2 points de moins qu'au premier trimestre. On en parle ce soir avec l'un des meilleurs spécialistes de ces questions, Bertrand Martineau. Bonsoir. Vous êtes économiste, bonsoir, expert associé à l'Institut Montaigne, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. 40 000 chômeurs en moins, on ne s'y attendait pas forcément compte tenu de la tendance qui est clairement plutôt à la remontée du chômage depuis début 2023. Qu'est-ce qui explique cette embellie ?
Alors c'est très difficile de l'expliquer parce que pendant la même période, l'emploi a légèrement reculé. Parce qu'en fait, on est sur une tendance plutôt négative sur l'emploi. En fait, l'emploi ralentit depuis le deuxième semestre 2022 en fait. Donc on continue à avoir des créations d'emplois, mais il y a un ralentissement en fait qui s'est accentué à partir de la fin de 2023. Donc il y a eu une amélioration au premier trimestre, mais le deuxième trimestre en termes d'emploi, on est à moins 8000, c'est-à-dire 8000 destructions d'emplois. Il n'est pas bon en fait en termes d'emploi. Il n'est pas catastrophique, il n'est pas bon non plus. Donc dans ces conditions, on ne peut expliquer la légère baisse du chômage que par un ralentissement ou une diminution de la population active complètement inexpliquée au deuxième trimestre. On n'a aucun élément pour expliquer ça.
Et qu'est-ce qui expliquerait qu'il y ait eu une diminution de la population active au deuxième trimestre 2024 ?
C'est le genre de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas prédire la population active, en fait. Donc, je ne sais pas. Il y a eu moins de jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail. Il y a eu moins de seniors qui sont partis à la retraite que ce qu'on aurait pu penser. Il y a dû y avoir, ou plus plutôt, plus de seniors qui sont partis en retraite que ce qu'on aurait pu penser. Donc voilà, on ne sait pas expliquer ce genre de variation au trimestre, le trimestre. Les chiffres du chômage au trimestre, le trimestre, ne sont pas très révélateurs. Ils sont perturbés par justement les évolutions de la population active. Ce qui est dans le dur et ce qu'on sait véritablement comptabiliser et ce qui donne les tendances vraiment économiques de l'emploi, c'est vraiment les créations d'emplois. Et là, on n'est pas sur une forte diminution. Enfin, on est quand même sur un fort ralentissement. Je rappelle que l'année dernière, on avait créé un peu plus de 150 000 emplois salariés. et que cette année, on en a créé 60 000 au premier trimestre et on a diminué de 8 000. Donc, on va avoir une année 2024 qui, vraisemblablement, sera moins bonne que 2023.
Et si on regarde, par exemple, l'un des éléments intéressants de ces chiffres, la hausse du taux d'emploi qui est désormais à 69%, oui. Conséquence peut-être de la mise en marche de la réforme des retraites de 2023. Ça, c'est une bonne chose, selon vous, la progression de ce taux d'emploi ?
C'est sans doute les premiers effets de la réforme qui est rentrée en vigueur à partir de septembre 2023. Mais il y a la continuation de la montée en charge de la réforme précédente, qui était la réforme Touraine, et qui a fortement accru la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Et elle monte en charge également jusqu'en 2030. Donc vous savez, ces deux effets qui se conjuguent, et effectivement, ça explique évidemment, tout naturellement, mécaniquement, la hausse du taux d'emploi des seniors, des 55-64, et donc évidemment la hausse du taux d'emploi général de l'économie, et ça c'est une très très bonne nouvelle. On est à 69% donc de cette tranche d'âge qui est en emploi, et ce sont des chiffres historiquement élevés. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie française, et ça va continuer à augmenter puisque la date de départ à la retraite va continuer à se décaler du fait des réformes des retraites.
Vous l'évoquiez plus tôt cette semaine, on a eu d'autres chiffres de l'INSEE, ceux de l'emploi salarié du secteur privé, qui montraient effectivement une stagnation des créations d'emplois. Oui. Donc en fait, si on élargit la focale, on est quand même dans une dynamique de ralentissement du marché du travail.
Oui, exactement. C'est pas une chute, c'est pas une catastrophe, c'est pas récessif. C'est un ralentissement qui est perceptible encore une fois depuis la fin 2022. Hein. Après une année 2021 extraordinaire, une année 2022 excellente, on a un ralentissement effectivement des créations d'emplois. Bon, il y a aussi le fait que l'apprentissage ait atteint un plafond probablement, donc il n'y a plus de création d'emplois nette du point de vue de l'apprentissage, hein, qui se maintient à haut niveau. Donc il y a aussi cet effet-là qui avait boosté un peu artificiellement, il faut bien le dire, quand même, les chiffres de l'emploi de 2021 et 2022. Il n'y a plus cet effet-là. Et donc on est sur un ralentissement, effectivement, des créations d'emplois. Et les enquêtes de l'INSEE sur le climat des affaires et le climat de l'emploi au mois de juillet, d'ailleurs postérieurement au chiffre du deuxième trimestre qui était déjà pas très bon, sont pas bons non plus, ils sont pas catastrophiques, mais ils sont en dessous de la moyenne de long terme. Donc on peut s'attendre à des... Alors il y aura sans doute un effet JO, c'est aussi ce que dit l'INSEE d'ailleurs, un effet JO au troisième trimestre, mais sans doute un mauvais troisième trimestre qui sera l'inverse en fait, qui contrebalancera l'effet de JO qui est one shot évidemment, qui ne joue que sur quelques semaines.
Mais jusqu'où selon vous peut aller ce ralentissement? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à un retournement du marché du travail, une remontée vers les 8% de chômage sur la deuxième partie de l'année?
Bah, à ce stade, la seule chose qui pourrait faire augmenter fortement le chômage, donc le faire remonter vers 8%, ce serait un très fort ralentissement économique ou une récession. Et à ce stade, on entrevoit plutôt une croissance molle, mais pas un environnement récessif. Donc, a priori, un retournement du marché du travail n'est pas à l'ordre du jour dans les prochains mois, mais peut-être une remontée du chômage. Une légère remontée du chômage, qui viendrait corriger la surprise un peu étonnante, effectivement, du deuxième trimestre. J'ajoute que les indications de l'INSEE, les estimations de l'INSEE sur le taux de chômage sont dans une fourchette de plus ou moins 0,3. Hein, donc 0,2, c'est une baisse, mais elle n'est pas très significative non plus. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que c'est un renversement de tendance. Absolument pas.
En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on est très loin de l'objectif d'Emmanuel Macron du plein emploi de 5%, objectif pour 2027. Selon vous, c'est atteignable cet objectif d'ici 2027?
Je n'ai jamais compris cette histoire, en fait. Le plein emploi, c'est 3 ou 3,5%, comme il y a partout chez nos voisins. Je n'ai jamais compris pourquoi on considérait en France, il y a une spécificité française sans doute, que le plein emploi est à 5%. Mais en tout état de cause, 5% est évidemment pas atteignable, le taux de chômage n'est évidemment pas atteignable à l'horizon 2027, sauf si on avait une croissance exceptionnelle qui viendrait d'on ne sait où. Mais ce n'est pas actuellement du tout ce qu'il y a dans les tuyaux. Mais c'est sûr qu'avec une croissance molle, telle que celle qu'on a depuis 2023-2024 et en prévision 2025, on peut maintenir le taux de chômage au niveau où il est. On peut peut-être le faire baisser de quelques dixièmes de points, mais il est évident que on peut pas le faire baisser à 5%. Ça voudrait dire qu'on créerait 300, 400, 500 000 créations d'emplois. Il y aurait 500 000 créations d'emplois par an d'ici 2027, et c'est pas... c'est pas envisageable, a priori.
La France est entrée dans une période d'instabilité politique. Ça va être dur de mettre d'accord une majorité de députés sur les questions d'emploi. Mais quelles seraient les réformes qui, selon vous, pourraient dynamiser ce marché du travail sur la deuxième partie de l'année et qui seraient envisageables ?
En fait, il n'y a pas énormément de réformes à proprement parler sur le marché du travail qui permettraient de créer de nombreux emplois. On pourrait réfléchir, remettre sur le métier, peut-être sous une autre forme, la réforme de l'assurance chômage. Ça ne crée pas des emplois, mais il est évident qu'un durcissement des conditions d'assurance chômage, ça accélère le retour à l'emploi. Donc ça a un effet positif sur le chômage. Et on pourrait peut-être gagner quelques dixièmes de points de chômage de ce point de vue-là. Mais en fait, l'essentiel maintenant des réformes à faire ne sont pas nécessairement sur le marché du travail, ils n'ont pas forcément directement, sont pas directement liés au marché du travail. Ce sont plutôt des réformes économiques générales sur la réglementation, toutes ces politiques qui favorisent la croissance en fait. Il faut bien voir que on a quand même une croissance très très faible depuis un certain nombre d'années et les créations d'emplois qui sont exceptionnelles depuis quelques années. Ne vont pas durer éternellement avec ce niveau de croissance. La sortie du chômage et le retour peut-être au plein emploi, et j'insiste, le plein emploi, c'est pas 5%, c'est plutôt 3-3,5%, si on voit nos voisins, ça suppose évidemment une croissance beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. On ne peut pas revenir au plein emploi avec 1% de croissance par an, ça paraît très difficile.
Merci beaucoup Bertrand Martineau, expert associé à l'Institut Montaigne, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy sur les questions sociales. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour décrypter ces chiffres du chômage. 18h38 sur BFM Business et on va parler à présent d'une pépite française du recyclage qui s'exporte, Carbios, qui a mis au point une technologie de recyclage de plastique à partir d'enzymes. Cette PME est en train de construire sa première usine en Meurthe-et-Moselle et elle annonce déjà cette semaine la signature de lettres d'intention avec la Turquie et le Royaume-Uni pour construire de nouvelles usines dans ces pays sous licence. On va en parler avec Emmanuel Ladan, directeur général de Carbios. Bonsoir. Deux partenariats conclus presque coup sur coup au cœur de l'été. Ça y est, la technologie mise au point par Carbios dépasse les frontières. C'est la preuve pour vous que le modèle de Carbios fonctionne ?
Oui, absolument. C'est la preuve que la technologie fait une différence puisqu'elle permet de recycler des déchets qui n'ont pas de facilité à être recyclés aujourd'hui, comme des barquettes alimentaires, des flacons de cosmétiques, ou surtout les déchets polyester, tout ce qui est textile polyester, puisque moins de 1% du textile polyester est recyclé aujourd'hui. Donc on voit véritablement que notre innovation séduit les différents acteurs, que ce soit des acteurs du plastique, du textile, ou encore des acteurs du déchet, puisque en l'occurrence, notre partenaire au Royaume-Uni est un acteur du déchet.
Alors justement, rappelez-nous le principe de votre innovation. Carbios utilise des enzymes, donc un procédé chimique qui permet de recycler le plastique de façon plus efficace, c'est ça ?
Alors, c'est un procédé biologique, puisqu'on part d'enzymes qui sont des protéines qui ont été développées et brevetées par Carbios. Et ces protéines vont venir découper les déchets en PET, donc les packaging en PET, ou les déchets en polyester pour les textiles, et revenir aux composants de base du plastique ou du textile pour refaire ensuite un plastique ou un textile de qualité originale. Et donc c'est véritablement l'innovation de Carbios qui est unique au monde, puisque tout ça est fait, encore une fois, à partir de matériaux biologiques, de protéines.
Une technologie unique au monde à laquelle s'intéressent le Royaume-Uni et la Turquie. Vous avez également noué un partenariat il y a un mois en Chine. Ça vous apporte quoi, à vous, Carbios, de construire ces usines sous licence ?
Alors, Carbios construit une usine en Meurthe-et-Moselle, qui va déjà alimenter nos premiers clients, mais ensuite, la vocation de Carbios, c'est d'aller vite. Et pour aller vite, il faut licencier notre technologie. Et donc on a aujourd'hui une forte demande de tous les pays qui sont des acteurs majeurs soit du packaging, soit des acteurs majeurs du textile. Et notamment, c'est pourquoi la Turquie, c'est pourquoi la Chine et d'autres pays s'intéressent à notre technologie.
Et la signature de ce type de partenariat, ça doit devenir à terme la principale source de revenus de Carbios ?
Oui, ça sera une grande sous-partie de nos revenus, les revenus de licence. Il y a également les revenus de notre activité de biodégradation, puisqu'on a aussi une division de biodégradation. Et puis, les revenus générés par les matériaux qu'on va produire sur notre première usine qui va alimenter, qui est en France, et on en est très fiers, et qui va alimenter le marché européen.
Alors, concernant la Turquie, dans le détail, c'est une usine deux fois plus grosse que celle que vous allez construire en France. C'est un défi colossal pour vous ?
Alors, ce n'est pas un défi colossal, mais c'est un défi important. Mais en fait, une fois qu'on sait faire 50 000 tonnes comme notre première usine, on saura facilement dupliquer et faire plus gros. Mais c'est important parce que la Turquie est un acteur majeur du textile. Elle alimente beaucoup le marché européen. Et donc d'avoir rapidement pris pied sur le marché turc, c'est important pour nous, parce que évidemment les producteurs de textiles, et Sasa qui est notre partenaire sur cette opération-là, sont très très moteurs sur changer la donne. Aujourd'hui, les textiles recyclés qu'on trouve dans nos magasins sont des textiles recyclés à partir de bouteilles et non pas à partir de fibres polyester. Donc la grande différence de la technologie Carbios, c'est qu'on va pouvoir recycler des fibres polyester en fibres polyester, donc rendre une circularité totale au textile.
Évidemment, des enjeux majeurs dans le secteur textile. Dans le même temps, ce partenariat au Royaume-Uni avec FCC Environment UK, poids lourd du secteur outre-Manche, comment ça s'est fait?
Alors, en fait, les gestionnaires de déchets, les gens qui ont accès aux déchets, s'intéressent également à la technologie de Carbios. La plupart d'entre eux ont déjà des activités de recyclage traditionnelles, j'allais dire, et aujourd'hui, ils se tournent vers des technologies comme Carbios pour aller plus loin et pour recycler des déchets qui n'ont pas de vocation à être recyclés aujourd'hui. La plupart des déchets de textile aujourd'hui sont malheureusement incinérés, mis en décharge ou exportés malheureusement dans des décharges sauvages dans les pays du Sud. Donc il y a véritablement un enjeu pour les gens du déchet de trouver des moyens de recycler des déchets auxquels ils ont accès.
Et quelles vont être les caractéristiques principales de cette usine? On parle de combien de tonnes qui vont pouvoir être recyclées?
Pour le Royaume-Uni, c'est en cours de définition, à la fois au niveau du site et au niveau de la taille de l'usine. Mais évidemment, vous savez, sur le marché français, notre usine de 50 000 tonnes, elle correspond à peu près aux déchets produits par 7 millions d'habitants. Donc vous voyez qu'il y a de la taille pour étendre Carbios rapidement dans les années qui viennent.
Est-ce qu'il y a d'autres projets à prévoir en Europe? On sait que FCC est par exemple présent en Espagne. Il y a un potentiel qui est énorme en Chine.
Alors on a beaucoup de discussions et avec les partenaires qu'on a déjà annoncés et avec d'autres partenaires pour d'autres pays, que ce soit asiatiques, d'autres pays européens ou des pays ou l'Amérique du Nord. Donc il y a pas mal de discussions en cours et j'espère qu'elles vont aboutir rapidement.
Et pendant ce temps-là, vous continuez la construction de votre usine en Lorraine. Ça en est où? L'ouverture, l'inauguration est toujours prévue l'an prochain?
Ça se passe très bien. On a posé la première pierre au mois d'avril et on sera opérationnel pour livrer nos clients de manière importante en 2026. Et le chantier se passe très bien. Le permis de construire a été obtenu dans un temps record, en 10 mois. Et aujourd'hui, le chantier avance très très bien et dans les temps.
Merci beaucoup Emmanuel Ladan, directeur général de Carbios, d'être venu ce soir dans Good Evening Business. Merci beaucoup. C'est la fin de Good Evening Business. L'info économique continue sur BFM Business toute la soirée. Et vous retrouvez lundi Stéphane Pedrazzi aux commandes de la matinale. Bon week-end.
Good Evening Business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.